grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé du jour du repos, le sabbat institué par Dieu pour l'homme. Un auditeur m'écrit à ce sujet pour faire remarquer qu'il existe des passages bibliques condamnant le repos du samedi. Il y a aussi, ajoute-t-il, des versets que je n'ai pas cités, dans lesquels l'apôtre Paul laisse aux chrétiens le choix du jour du repos. Et il cite Romains, le chapitre 14, les versets 5 et 6. Examinons ce chapitre cité par cet auditeur et voyons ce que Paul nous explique. Dans sa lettre aux Romains, Paul explique clairement que la loi est toujours en vigueur. Nous ne devons pas la confondre avec les sacrifices qui, momentanément, sont écartés. Paul écrit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Pour être justifié, le chrétien ne doit donc pas se contenter d'écouter ce que dit la loi, il doit la vivre, c'est-à-dire la mettre en pratique. Il poursuit en écrivant « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La foi n'anéantit donc pas la loi. Elle ne l'annule pas. Au contraire, elle confirme sa validité. Et pour cause, cette loi est éternelle comme le confirme le psaume 119. Pour bien comprendre les épîtres de Paul, il est parfois nécessaire de remplacer certains mots par leur définition biblique. Prenons l'exemple du péché. La Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi. Remplaçons donc le mot péché par transgression de la loi, puisque c'est la définition que la Bible en donne. Ce faisant, vous pourrez mieux comprendre la pensée de Paul. Que dirions-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché ? Demeurerions-nous dans la transgression de la loi, afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts à la transgression de la loi, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Comment vivrions-nous dans la transgression de la loi ? Il est donc clair que si nous vivons en conformité avec la loi divine, nous ne la transgressons pas puisque nous éliminons le péché de notre vie. Et Paul ajoute que le péché, autrement dit que la transgression de la loi, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il écrit encore, « Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Et aussi, « Car sans loi, le péché est mort. » La loi est donc toujours d'application. Elle a été établie par Dieu pour l'homme, et personne n'a le droit de la changer ni de l'abolir. Paul le savait, car si la loi est abolie, alors le péché est mort, il n'existe plus, ce qui est loin, bien loin d'être la réalité. Lorsque Paul déclara dans Romains au chapitre 2, verset 29, que la circoncision physique devient celle du cœur, changeait-il quelque chose à la loi? Nombreux sont ceux qui le pensent. Pourtant, Paul n'apporta rien de nouveau. Il mentionnait simplement ce qui se trouve dans l'Ancien Testament et que vous pourrez lire vous-même dans Deutéronome, le chapitre 10, verset 16 et le chapitre 30, verset 6. Qu'est-ce que Paul voulait dire par ce qu'il écrit dans Romains 6, 14? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Rappelez-vous que tous les hommes, tous, sans exception, Jésus mis à part bien entendu, ont péché. Rappelez-vous également que le salaire dont est redevable celui qui a péché, transgressé la loi, est la mort éternelle. Mais depuis que le Christ est mort à notre place, l'amende dont nous devions nous acquitter a été payée. Nous ne devons donc plus payer l'amende de la mort que la loi exigeait de nous suite à nos transgressions. Par conséquent, nous nous trouvons sous la grâce, nous sommes graciés. Pouvons-nous oublier la loi pour autant? Pouvons-nous continuer à la transgresser en vivant dans le péché? Si un individu condamné à la peine capitale pour son crime voit le roi ou le président de son pays lui accorder la grâce, ce criminel est acquitté de l'amende que la loi exigeait de lui. Mais pensez-vous que cette grâce l'autorise à recommencer les mêmes crimes? La réponse est non, évidemment. La grâce est une faveur et la loi garde toute son autorité. D'ailleurs, si nous continuons à vivre dans le péché, si nous continuons à transgresser la loi de Dieu, Christ ne vivra pas sa vie en nous et nos péchés continueront à nous séparer de Dieu. Ils romperont la ligne de communication entre lui et nous. Tout ceci doit nous aider à comprendre que Paul n'abolit pas la loi et ne la change pas. Il ne change pas le jour du repos. Le maître du sabbat, c'est le Christ. Examinons maintenant le 14e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Pour bien le comprendre, nous ne devons pas oublier que Paul écrit à des gens convertis, n'ayant pas encore une connaissance parfaite, car ils n'ont pas d'assemblée régulière, ils n'ont pas de ministre ou de pasteur. Si c'eût été le cas, Paul les aurait nommés comme il le fait dans d'autres épîtres. Voilà pourquoi ces nouveaux membres ont encore des divergences d'opinion au sujet de quelques coutumes païennes dont ils ne parvenaient pas à se débarrasser, se refusant toujours de manger de la viande certains jours de la semaine. On vendait également des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles, et cela troublait leur conscience. Mais ce chapitre ne parle pas du 4e commandement qui traite du repos hebdomadaire, pas plus qu'il ne met en cause les viandes impures reprises dans Lévitique 11, qui, elles, n'ont pas été créées pour nourrir les hommes. Enfin, sachez qu'à l'époque de Paul, beaucoup de membres rencontraient des problèmes, parce qu'ils abandonnaient leurs anciennes croyances païennes pour venir à la vérité. Le stoïcisme et l'ascétisme étaient assez répandus dans le monde grec et romain. On considérait le plaisir, même le plaisir saint, comme un péché, et certains jours de la semaine, il était question de mortification. Fallait-il s'y conformer? Voyons la réponse de Paul. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange, sous-entendu de tout, comme le font remarquer la plupart des traducteurs, ne méprise point celui qui ne mange pas de tout. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge point celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Comme c'est le cas dans tout ce chapitre, il s'agit d'une question de nourriture. Nous nous trouvons ici devant deux catégories de personnes. Certains chrétiens mangeaient de tout et d'autres ne mangeaient pas de tout. Il restait donc certaines superstitions, tout comme au sein de l'Église de Corinthe, et Paul le réécrira également à ce sujet, sans remettre en cause, bien entendu, la question des viandes pures et impures. Passons à Romains, chapitre 14, verset 5. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Remarquez que Paul ne dit pas que Dieu fait une distinction entre les jours et que Dieu les estime tous égaux. Il est question ici de ce que certains hommes pensent et non pas de ce que Dieu dit. Ce verset ne traite pas du sabbat. En ajoutant que chacun ait en son esprit une pleine conviction, Paul ne donne pas licence de croire ce que l'on veut sur n'importe quel sujet. Les païens avaient établi des jours gras et des jours maigres. Ils ne mangeaient pas de viande certains jours, tout comme il y a une cinquantaine d'années, la plupart des gens dans les pays catholiques ne mangeaient pas de viande le vendredi, surtout le vendredi saint. Cependant, certains chrétiens de l'Église, située à Rome, qui étaient faibles dans la foi, s'accrochaient encore à ces superstitions, à ces croyances qui ne sont pas bibliques. Paul ajoute, toujours dans Romains le chapitre 14 et au verset 6, « Celui qui distingue entre les jours, mais il distingue pour une question d'alimentation, et non pas pour les sabbats, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, sous-entendu de tout, comme le font remarquer beaucoup de commentaires bibliques, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, toujours sous-entendu de tout, qui élimine viande et vin, comme Paul l'explique plus loin, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas de tout, et il rend grâce à Dieu. Celui qui considère certains jours comme étant des jours maigres, s'il le fait encore dans sa faiblesse momentanée, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. Il ne transgresse pas la loi en agissant ainsi. Il croit plaire à Dieu en distinguant entre les jours. Il en est de même pour celui qui mange de tout, car lui aussi le fait en rendant grâce à Dieu. Il n'est cependant pas question de rendre grâce pour des viandes que Dieu a toujours considérées comme impures, impropres à l'alimentation de l'homme. Bien entendu, nous ne lisons pas ici l'autorisation de transgresser la loi établie pour la santé, car si elle était bien appliquée, l'homme résisterait mieux aux maladies et aux épidémies. Paul poursuit au verset 21, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » À la même époque, Paul confirme ses paroles aux Corinthiens en disant que si un aliment scandalisait un frère, il ne devait pas en manger. Mangeons tout ce que Dieu autorise, sans être une pierre d'achoppement pour celui qui est encore faible dans la foi. Voilà le message de Paul dans ce chapitre. Dans Romains 14, le mot « mange » est utilisé 12 fois, le mot « aliment » 3 fois et le mot « manger » 2 fois. Il n'est donc pas question du sabbat, comme mon auditeur le pensait. Examinons toujours le contexte. C'est ainsi que nous éviterons de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas.